Bonjour à tous, c'est une émission un peu spéciale en direct de Jérusalem. Et même d'ailleurs, pour vous dire tout, c'est une émission en direct de la Knesset. Nous avons rendez-vous dans quelques instants avec le président de la Knesset. Et nous sommes dans les studios à Jérusalem, c'est-à-dire que moi je suis à Jérusalem, nous sommes dans les studios à Paris, les studios de Radio Shalom, avec Ilan Rosenkier, qui est le président de Shalom Arshav France, c'est-à-dire du mouvement La Paix Maintenant en France. Ilan, bonsoir.
Bonsoir.
Ilan, on va partir du plus général peut-être au plus particulier. D'abord déjà, de manière la plus large possible, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le 7 octobre ?
Mais je pense que beaucoup de choses ont changé. J'aurais presque tendance à dire tout. L'effet de sidération, l'inversement des valeurs, un sentiment de confiance qu'on aurait pu avoir dans un avenir plus ou moins proche. Tout a été ébranlé. Les manifestations d'antisémitisme qu'on voit en France. Je suis passé tout à l'heure rue de Crussol et sur les photos des otages étaient marquées « propagande de salopes ». Au moins, ils n'avaient pas arraché les photos. Donc, on est en pleine chute de la raison, de l'espoir, du cœur et dans une opposition frontale qui ne peut, si on arrive à la surmonter, que conduire encore à plus de malheur, plus de destruction. Et donc, il est nécessaire de se mobiliser pour faire ressurgir à nouveau l'espoir dans l'avenir et essayer de faire revenir de la raison sans pour autant brider les émotions que l'on peut tous et que l'on doit tous ressentir.
Est-ce que cela vous a amené aussi à changer votre logiciel politique ? Parce que le logiciel de La Paix Maintenant, en gros, vous me dites, évidemment, je parle sous votre contrôle, je ne parle pas à votre place, mais grosso modo, c'est on va partager. Et puis, les émotions, comme vous dites, mais on pourrait dire aussi les haines, vont se calmer. Chacun aura des intérêts pour développer sa terre, pour développer son État. Et finalement, c'est ça la clé. Shimon Peres disait tout passe par l'économie, que Shalom Arshav va plus loin, dit il faut une solution politique, ça sera pas militaire. Mais chacun, en fait, finalement, si on lui donne à chacun quelque chose qui lui semble juste, eh bien, il s'occupera de ses propres affaires et arrêtera de vouloir chercher à se battre contre l'autre. Est-ce qu'avec ce massacre du 7 octobre, où des gens voulaient simplement danser, par exemple, ou passer le week-end dans des kibbutzim, ou... Donc, sans aucune provocation de leur part, 1500 personnes massacrées. Est-ce que ça vous amène à changer votre logiciel politique ?
Non, ça n'amène pas à changer le logiciel politique. Au contraire, d'un certain point de vue, ça le renforce. Ça change l'ampleur des enjeux qui s'offrent à nous. Effectivement, on n'a pas pris en compte, moi en tous les cas, je n'avais pas pris en compte la dimension existentielle qui transparaît très clairement dans l'attaque meurtrière du Hamas qui visait à éradiquer le juif en tant que juif, l'israélien en tant qu'israélien. Il ne s'agissait pas de libérer les territoires occupés, car Gaza n'est pas occupé. Par contre, on voit bien que le logiciel qui disait tout dans la sécurité, tout dans le rapport de force, le développement par l'économie, c'était quelque part ce qui sous-tendait les accords d'Abraham en disant mettons le problème palestinien sous le tapis et puis occupons-nous du développement économique avec d'autres pays et ça passera à l'as. On voit bien que c'est un échec et que ça ne mène à rien et que ça ne peut mener qu'à rien si ce n'est à conflit après conflit. On n'était pas dans une relation d'amour. Il ne s'agissait pas de croire que Israéliens et Palestiniens allaient se tomber dans les bras et que tout irait très bien dans le meilleur des mondes. Comme Amos Oz l'avait dit, c'est d'un divorce dont il s'agit. Un divorce, c'est toujours quelque chose de douloureux. Chacun doit être chez soi en se défendant, avec le droit à se défendre, en précisant quels sont les modes de séparation, qu'est-ce qui est à l'un et qu'est-ce qui est à l'autre, et il faut arriver à un accord. Un certain nombre de dirigeants israéliens ont commis l'erreur de comparer ce qui s'est passé à la Shoah. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je pense que c'est.
Non, un... allons-y maintenant. Allons-y maintenant. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas un pogrom? Pourquoi non, est-ce qu'on n'a pas tué des gens des gens qui sont de votre. En plus, des gens de votre camp. Hein.
Tout à fait. Non, non.
Quand on habite un kibbutz, on est issu de la Shomer HaTzair ou du Dror, ou on est dans ce qu'on appelle en Israël. Non, non, pourquoi ce n'est pas un pogrom?
Non, non.
On va danser le samedi.
C'est un pogrom. C'est un pogrom. Que les choses soient claires. La comparaison avec la Shoah, c'est par rapport au nazisme, etc. C'est pas par rapport au pogrom, c'est d'un véritable pogrom dont il s'agit, et je l'ai dit au début, il s'agissait de tuer des juifs et des israéliens parce qu'ils étaient juifs et israéliens, quelle que soit leur position politique, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quel que soit leur état de santé. On était dans un processus d'extermination totale, mais ce n'est pas le nazisme. Si on fait cette comparaison avec la Shoah, alors il faut voir... après la Shoah, quel est l'état des relations entre Israël et l'Allemagne. Donc ce qui se passe aujourd'hui ne détermine pas quel sera de façon obligatoire l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. L'avenir, c'est aux hommes de le construire. Ça peut être encore pire que ce qui est aujourd'hui, ça peut être aussi meilleur, mais ce n'est pas quelque chose qui est défini une fois pour toutes. C'est à nous de le définir, c'est à nous de le façonner.
Lorsque Naftali Bennett dit, je ne parle jamais de nazi. Naftali Bennett, c'est l'ancien premier ministre israélien. Moi, je n'utilise pas le mot nazi, ce n'est pas ma façon de parler. Mais là, c'est des nazis d'une nouvelle sorte. C'est des gens qui, par exemple, mais vous le savez aussi bien que moi, les auditeurs le savent aussi bien que moi, préfèrent d'abord découper quelqu'un, excusez-moi de parler comme ça, le faire souffrir, que de le tuer. Mais par contre, il lui tirera dessus après une fois qu'il sera mort. Donc c'est une forme de monstruosité qui est inédite. Et là, pour le coup, par exemple, tous les sauveteurs de Zaka sont d'accord. Ils disent tous, c'est pire que du nazisme. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser ce mot-là? Peut-être qu'il y a des formes nouvelles de barbarisme. Malheureusement, vous savez, on peut toujours trouver quelque chose de nouveau. Hein.
J'ai parlé de la comparaison avec la Shoah, c'est-à-dire d'une extermination totale d'un peuple, etc. Que l'objectif soit le même de la part du Hamas, je veux bien. On est dans un contexte différent, ne serait-ce d'abord parce qu'il existe un État d'Israël et des forces armées, et même s'il y a eu des insuffisances et des failles et des lacunes, et voire de terribles erreurs, l'État et l'armée sont là, et donc c'est la référence par rapport à la Shoah, non pas par rapport au nazisme et à la volonté d'extermination. Mais c'est pas quelque chose d'essentiel, on n'est pas dans l'essentialisme, ça c'est les gens du Hamas, c'est pas l'ensemble des Palestiniens, et c'est encore moins l'ensemble des Arabes. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des Arabes israéliens qui ont été tués également lors de ce massacre. Il y a eu des Arabes israéliens, il y a eu des Thaïlandais, des Népalais, mais bon, je parle des Arabes puisque c'est de ça dont il s'agit par rapport à l'islam, par rapport à la dimension palestinienne, des Palestiniens israéliens qui ont été à la fois des victimes et qui aussi ont contribué à sauver des Juifs israéliens du massacre en prenant des risques. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui concerne l'ensemble des Palestiniens, cette volonté d'exterminer, d'éradiquer les Juifs n'est pas consubstantielle au fait d'être palestinien ou au fait d'être musulman.
Donc vous croyez-vous toujours à l'idée de deux États vivant côte à côte? Est-ce que par exemple maintenant vous avez changé, disons, sur l'idée de la militarisation de cet État? Est-ce que vous demandez maintenant un État démilitarisé, au moins dans une première phase?
On a toujours, le camp de la paix et les accords de Genève ont toujours parlé d'un État démilitarisé, du moins dans un premier temps, après quitte à ce que 50 ans après, une fois que les choses auront été faites, d'une évolution, mais la dimension de démilitarisation, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des choses basées sur la confiance. La confiance entre États n'est pas un élément à prendre en ligne de compte. Il s'agissait d'assurer aussi notre propre sécurité, et c'est parce que nous voulions notre sécurité qu'il était question de deux États. Si effectivement une partie des forces n'avait pas été obligée de se trouver en Cisjordanie occupée et avait été dans le sud du pays comme elles auraient dû l'être, les choses auraient été différentes. La volonté de nous exterminer, non, mais les résultats, les conséquences auraient été fondamentalement différentes, et l'État aurait été à même de réaliser l'accord tacite qui existe entre lui et ses citoyens, c'est-à-dire de lui assurer la sécurité existentielle, ce qui n'a pas été le cas en cette journée tragique du 7 octobre 2023.
Le responsable du Modine, donc l'un des services de renseignement qui au demeurant a va devoir expliquer comment il a pu faire une telle faillite. Mais il dit l'une des raisons pour lesquelles on a été attaqué, c'est parce qu'on a donné l'impression qu'on était faible. Et il donne toute une série de raisons, hein, y compris l'accord sur le gaz, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Il dit, on est apparu faible et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de nous frapper parce qu'ils ont fait l'erreur de croire que c'était l'horreur, quoi, que c'était le moment.
On est apparu tellement faible, on était tellement persuadé de notre faiblesse qu'on a considéré qu'avec une barrière qui coûtait des milliards et des milliards, la sécurité était assurée, qu'on a tellement maîtrisé l'ennemi qu'on a considéré que effectivement, avoir des soldats, ce n'était pas nécessaire, qu'on pouvait les envoyer pour protéger des colons qui voulaient aller prier sur tel ou tel tombeau. C'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire l'excédent de force, d'être imbu de nous-mêmes,
de
mépris, de confiance en soi, de manque de considération de l'autre qui nous a amenés à ces erreurs. Il y aura une commission d'enquête, les choses seront dites. Effectivement, il y a une volonté pour certains de se défausser de leur responsabilité. C'est quand même extraordinaire. Bon, on ne va pas tout aborder maintenant, mais
Mais d'ailleurs, ce sera ma dernière question, parce que nous avons rendez-vous avec le président de Knesset tout de suite. Alors, je vais vous poser une dernière question.
Allez-y.
Si je vous dis, pour vous, la solution aujourd'hui, c'est toujours une solution à deux États vivant côte à côte. Est-ce que vous me répondez oui ?
Je réponds oui. C'est effectivement ce qui s'est passé a remis à la fois, soi-disant, la question palestinienne à l'ordre du jour, mais on n'a jamais autant parlé d'une solution à deux États qu'actuellement. Maintenant, quelle forme elle prendra ? Parce que deux États, il y a différentes formes d'États. Et comment on y arrivera ? C'est un autre sujet. Mais il est clair que de toutes les façons, toute guerre se termine à un moment ou à un autre par la paix. Et ce conflit, cette guerre, se terminera également à un moment ou à un autre. Il faut, dans un premier temps, que tous les otages soient libérés et reviennent au pays.
Ilan Rosenkier, le président de Shalom Arsha France,
mouvement
La Paix Maintenant, de sa branche française. Je vous remercie d'avoir été l'invité de cette édition spéciale, ici, en direct de Jérusalem, en direct de la Knesset, dans ces moments qu'on qualifie un peu tristement, mais pas un peu tristement, la mort dans l'âme, ces journées historiques où chacun, évidemment, arrive à remettre en cause ses positions, essayer de revoir, essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Ilan Rosenkier, merci d'avoir été notre invité pour cette émission spéciale des Chroniques de la Paix. Bonsoir à vous.
Bonsoir, merci à vous.